parler d'un sujet que je veux juste introduire par cette question que peut se poser de temps en temps, c'est qu'est-ce que vaut notre vie? En fait, à cette question-là, il y a plein de réponses qui sont données par plein de personnes différentes. Il y a déjà la réponse qu'on donne nous-mêmes, et cette réponse, elle dépend parfois un peu des jours, et des jours où on a l'impression qu'on vaut plus que d'autres, en fonction des circonstances, en fonction de plein de choses. Il y a aussi ce qu'en disent les gens qui nous entourent, dans tous les différents cercles dans lesquels on évolue, que ce soit au travail, que ce soit nos voisins, les gens dans l'église. Mais en fin de compte, la chose qui nous intéresse vraiment, c'est ce que Dieu en dit. C'est ce que vaut notre vie d'après Dieu. Ce que Dieu, oui, la valeur que Dieu attache à notre vie. Et donc, ça m'a amené à m'intéresser à une chose. Il y a un exemple dans la parole où on voit ce que Dieu dit de façon générale sur la vie de quelqu'un une fois que sa vie est terminée. C'est une appréciation globale sur la vie de quelqu'un. Et c'est en fait quand on regarde l'histoire de tous les rois de Juda. En fait, à chaque roi, au moment où il meurt, il y a une petite phrase dans la Bible qui dit, en un résumé très court, ce que Dieu a pensé de sa vie. Et je me suis dit que ça serait intéressant de voir ce que Dieu avait dit de ces rois de Juda pour nous en tirer quelque chose. Parce que je pense qu'on a tout le désir, le jour où notre vie se terminera, que Dieu dise quelque chose de bien à propos de notre vie, qu'il y ait une appréciation positive. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu ces différents rois de Juda. Et en fait, bien sûr, on commence avec David. Alors, j'ai pas commencé avec Saül parce que j'ai pas trouvé du tout une appréciation globale de Dieu sur Saül. C'est-à-dire à des moments précis dans sa vie, quand il a fait ce que Dieu lui demandait ou au contraire pas fait ce que Dieu lui demandait, Dieu lui a dit quelque chose à ce sujet, mais j'ai lu nulle part une appréciation globale sur la vie de Saül. Donc voilà, pour Saül, il n'y a pas. Mais pour David, c'est le seul roi dont il est dit qu'il était selon le cœur de Dieu. Donc on trouve ça dans deux passages. On le trouve en 1 Samuel 13, au verset 14. Et donc c'est quand Dieu annonce à Saül qu'il va être remplacé, justement parce qu'il a désobéi. Il va être remplacé par David. Et donc il lui dit, par la bouche du prophète, « Maintenant, ton règne ne subsistera pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi prince sur son peuple, car tu n'as pas gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Et c'est David, donc cet homme selon le cœur de Dieu. Et puis c'est redit en acte 13, au verset 22, en reprenant donc toute l'histoire du peuple d'Israël. Et donc, il est dit que Saül a été ôté, et Dieu leur a suscité David pour roi, duquel aussi il dit, en lui rendant témoignage, « J'ai trouvé David, le fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. » Donc cette expression « un homme selon mon cœur », il n'y a que David qui y a droit. On ne trouve aucun autre roi pour lequel Dieu a dit qu'il était selon son cœur. Et donc après, quand on prend tous ces rois de Juda, il y a des bons et des mauvais. Les critères de jugement qu'on retrouve à chaque fois dans l'évaluation de leur vie, c'est soit ils ont fait ce qui est bon aux yeux de l'Éternel, soit ils ont fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Donc ça, c'est leur conduite, ce qu'ils ont fait. Ensuite, c'est est-ce qu'ils ont marché dans la voie de David, leur père, ou est-ce qu'ils n'y ont pas marché. Et puis aussi, est-ce qu'ils ont eu un cœur parfait devant l'Éternel. C'est ces trois expressions qu'on trouve. Soit donc marcher, faire ce qui est bon et droit devant Dieu, ou faire ce qui est mauvais. Ensuite, marcher dans la voie de David, leur père. Et ensuite, avoir un cœur parfait devant Dieu. Et alors, quand on regarde tous ces rois, on va regarder les bons, parce que les mauvais, là, aujourd'hui, c'est pas trop ce qui nous intéresse. C'est pas vraiment l'intention qu'on a pour notre vie, d'imiter ceux-là. Donc, on va regarder les bons. Et quand on regarde les bons, c'est très intéressant. Parce que, pour la plupart d'entre eux, quoi qu'ils aient fait de bon, et même s'ils ont eu une vie vraiment caractérisée par... un cœur pour Dieu et le fait de faire de bonnes choses dans leur règne, il y a tout le temps la même réserve qu'on retrouve sur l'appréciation globale de leur vie à la fin, toujours la même. Alors je vais vous les lire, c'est peut-être pas la peine que vous cherchiez, je vais vous donner les références pour que vous puissiez les retrouver si vous voulez le relire après. Écoutez bien et voyez la phrase qui revient tout le temps, la réserve qui vient tout le temps. Donc le premier roi, le premier bon roi de la lignée des rois de Juda, c'est le roi Asa. Et donc je vais vous lire 1 Roi 15, versets 11 à 14. Donc c'est cette appréciation de Dieu à la fin de sa vie. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Il fit disparaître du pays les hommes voués à la prostitution et ôta toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même à Maaca, sa mère, il ôta sa position de reine parce qu'elle avait fait un simulacre pour Asher. Et Asa bâtit son simulacre et le brûla dans la vallée du Cédron, mais les hauts lieux ne furent pas ôtés. Cependant, le cœur d'Asa fut parfait avec l'Éternel tous ses jours. Ça, c'était Asa. Ensuite, Josaphat. Josaphat, c'est en 1 roi 22. Et je vous lirai le verset 43. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père. 1 roi 22, 43. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père. Il ne s'en détourna pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne furent pas ôtés. Le peuple sacrifiait encore et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Ensuite, on a Joas, c'est 2 rois 12, versets 2 et 3. 2 rois 12, versets 2 et 3. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tous les jours que Jéhoiada, le sacrificateur, l'instruisit. Seulement, les hauts lieux ne furent pas ôtés. Le peuple sacrifiait encore et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Ensuite, on a Amatsia. Amatsia, c'est 2 rois 14. Versets 3 et 4. Deutéronome 14, versets 3 et 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Là, il y a une réserve supplémentaire pour Amadir. Mais il fit selon tout ce que son père Joas avait fait. Seulement, les hauts lieux ne furent pas ôtés. Le peuple sacrifiait encore et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Il n'en reste plus que deux. Hein. Ozias, Deutéronome 15, versets 3 et 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait Amadia son père, seulement les hauts lieux ne furent pas ôtés. Jotham, 2 rois 15, versets 34 et 35. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il fit selon tout ce qu'avait fait Ozias son père, seulement les hauts lieux ne furent pas ôtés. Donc j'imagine que vous avez entendu quelle est la réserve qui revient pour tous les rois de Juda, même les beaux. Cette phrase, cette petite phrase tout le temps, seulement les hauts lieux ne furent pas ôtés, à chaque fois. Alors, on va y revenir un peu plus loin. Moi, c'est une phrase qui m'étonnait, parce que par exemple, pour un roi comme Asa, vous avez entendu ce que je vous ai lu, ce qu'il a fait Asa, il a fait disparaître du pays les hommes voués à la prostitution, il a ôté toutes les idoles, et il a même destitué sa mère parce qu'elle avait une idole. Mais seulement les hauts lieux n'étaient pas ôtés. Donc, voilà, je me demandais ce que ça pouvait signifier. Alors, il y a deux rois à part dans ces bons rois. Et ces deux rois à part, c'est Ézéchias et Josias. Et là, pour ces deux rois-là, il n'y a pas cette réserve. Pour ces deux rois-là, il y a tout ce qu'ils ont fait, ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Ils ont marché dans la voie de David, leur père. Ils ont été d'un cœur parfait envers Dieu. Et il n'y a pas cette réserve. Et c'est les deux seuls rois dont il est dit autre chose. Il est dit pour Ézéchias en 2 rois 18, verset 5. Après lui, il n'y en eut point de semblable parmi tous les rois de Juda, non plus que parmi ceux qui avaient été avant lui. Ça, c'est Ézéchias et c'est 2 rois 18, verset 5. Et Josias, 2 rois 23, verset 25, la même chose. Avant lui, il n'y eut pas de roi semblable à lui, qui se fut retourné vers l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il ne s'en est pas levé de semblable à lui.
C'est 2 rois.
Ça, c'est 2 rois 23, 25.
Donc, pour tous les deux, il n'y a pas eu de roi comme eux avant ni après.
Voilà, exactement. C'est comme si Dieu disait, parmi tous les bons rois de Juda, Ézéchias et Josias, ils sont à part. Et comme par hasard, ces deux rois à part, il n'est pas dit à leur sujet, seulement les hauts lieux ne furent pas ôtés, alors que c'est dit pour tous les autres. Et en fait, quand on réfléchit un petit peu sur le fait que David ait été appelé selon le cœur de Dieu, et puis qu'après, ce n'est jamais été dit pour un autre roi, même ceux dont il est dit qu'ils ont marché dans la voie de David, leur père, il n'a quand même jamais été dit d'eux qu'ils étaient selon le cœur de Dieu. Je me faisais la réflexion, si on reprend toujours cette réserve qui revient, qui fait référence au lieu, donc à l'idolâtrie, on ne voit pas dans la vie de David qu'il y ait eu du tout d'idolâtrie. Il y a eu des péchés dans la vie de David, mais on ne voit pas d'idolâtrie. On a l'impression qu'il y a une chose qui a été vraiment constante dans la marche de David, du début à la fin, c'est que pour lui, l'Éternel était son Dieu et il n'y en avait pas d'autre. Il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans les psaumes, notamment dans le psaume 16, au verset 8, il dit « Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi ». Et j'ai vraiment l'impression que c'est une chose qui a caractérisé le règne de David. C'est que quelles que soient les erreurs, les manquements, les péchés, il a toujours eu l'Éternel devant lui, et l'Éternel a toujours été son Dieu, et il a marché et il est tombé parfois, mais toujours devant l'Éternel. Il n'a jamais eu un cœur partagé. Il n'y a jamais eu d'autre Dieu dans sa vie. Alors, l'idolâtrie en Israël, elle a refait son apparition sous son fils, sous Salomon, à la fin de sa vie. On trouve ça en 1 Roi 11. Et en fait, il s'est produit ce que Dieu avait averti le peuple d'Israël à l'avance. Il a dit, si vous épousez des femmes étrangères, elles vous attireront vers leur Dieu. Et en 1 Roi 11, au verset 4, on voit exactement ça dans la vie de Salomon. Il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ses femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux, et son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel son Dieu comme le cœur de David son père. Donc il y a le détail de toutes les idolâtries auxquelles il s'est adonné. Il fait quand même partie des bons rois, mais il y a ça, voilà, cette réserve de la fin de sa vie. Voilà, ça se termine avec cette appréciation de l'Éternel. L'Éternel eut de la colère contre Salomon, parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui s'était révélé à lui deux fois, et lui avait commandé à ce sujet de ne pas aller après d'autres dieux, et il ne garda pas ce que l'Éternel lui avait commandé. Et en fait, donc sous David, on ne voit pas qu'il y ait eu d'idolâtrie dans le peuple. Sous Salomon, ça a été bien pendant longtemps, et puis à la fin de sa vie, toutes ces femmes étrangères ont détourné son cœur. Il a commencé à s'adonner à l'idolâtrie et à entraîner le peuple aussi à commettre de l'idolâtrie. Et ensuite, c'est une succession en fait, quand on lit l'histoire de Juda. Sous les mauvais rois, il y a de l'idolâtrie partout. C'est toujours initié par le roi. Le roi fait venir des idoles des pays voisins, des peuples voisins, et puis entraîne le peuple à leur sacrifier. Et puis après, sous les bons rois, ben on détruit toutes ces idoles-là et on retourne à l'Éternel. Et c'est tout le temps une succession comme ça dans toute l'histoire des rois de Juda. Mais, encore une fois, ça ne nous dit toujours pas qu'est-ce que ça voulait dire cette histoire des bons rois qui avaient détruit les idoles, qui avaient chassé les idolâtres et qui pourtant avaient laissé des hauts lieux dont on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et en fait, l'explication, on la trouve à propos du roi Manassé, qui lui, pour le coup, est un mauvais roi. Mais peut-être pas forcément du point de vue de Dieu. Parce que ce que regarde Dieu dans la vie de Manassé, c'est pas seulement ses 40 ans où il a été un roi abominable, peut-être le pire, mais c'est aussi qu'à la fin, c'est un roi qui s'est repenti sous la main de Dieu, qui a reconnu son état et qui est retourné de ses mauvaises voies. Et qui a ramené justement, qui a détruit des idoles et qui a ramené le peuple à adorer l'Éternel. Et là, on trouve une phrase qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est en 2 Chroniques, au chapitre 33. Verset 16. 2 Chroniques 33, verset 16. Donc c'est à propos de Manassé, après qu'il se soit repenti. Donc dans les versets précédents, il a ôté de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole que lui-même avait amené là, hein, pendant la période où il marchait pas avec Dieu. Et donc au verset 16, et il mit en état l'autel de l'Éternel et il sacrifia des sacrifices de prospérité et d'action de grâce. Et il commanda à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc vraiment, il est revenu à Dieu. Et il emmène le peuple avec lui, il le fait retourner à Dieu. Et au verset 17, il est dit, « Toutefois, le peuple sacrifiait encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, leur Dieu. » C'est-à-dire que pour Manassé, quand il est redevenu bon, en quelque sorte, quand il est devenu bon, il y a la même réserve que pour tous les rois d'avant, mais elle est un peu expliquée. Et en fait, en lisant ça, j'ai le sentiment que tous ces rois qui étaient bons et qui s'étaient débarrassés de l'idolâtrie dans le pays, ils s'en étaient débarrassés dans le sens où on n'adorait plus les idoles en Israël, sous ces bons rois-là, sous Asa par exemple. Sous Asa qui avait détruit toutes les idoles, qui avait même destitué sa mère parce qu'elle adorait une idole, qui s'était débarrassé de toute l'idolâtrie en Israël. Il n'y avait plus, on n'adorait plus les idoles. Mais pendant tout le temps où le peuple était idolâtre, ils avaient pris l'habitude de faire certaines choses. Et notamment, ils avaient pris l'habitude d'adorer sur les lieux élevés et sous les arbres verts. Ça, c'était des coutumes idolâtres. Les coutumes idolâtres, c'était d'adorer les différents dieux de la nature. Et donc, dès qu'il y avait un arbre vert, ben, on adorait là. Dès qu'il y avait une haute montagne, on adorait là. Sous-entendu l'esprit de l'arbre vert ou l'esprit de la haute montagne. Et donc, quand il y a eu ces réveils, le peuple a arrêté d'adorer l'esprit de l'arbre vert et l'esprit de la haute montagne. Mais ils avaient pris l'habitude d'aller là-bas pour adorer. Et ils ont continué à faire ça. C'est-à-dire, ils sont allés adorer l'Éternel, mais au lieu d'aller l'adorer à Jérusalem, au temple, comme c'était demandé, ils sont allés l'adorer dans les endroits où ils avaient l'habitude d'aller pour adorer du temps où ils étaient idolâtres. Et en fait, pour moi, c'est ça la réserve qu'il y a pour chacun de ces rois. C'est que le peuple est revenu à l'Éternel, mais quelque part à sa manière. Et ça m'a vraiment interrogée sur la façon dont on vit nos vies. Je suis allée trop vite, du coup, j'ai passé un truc. Oui, juste rapidement, avant d'aller sur la partie plus pratique, justement, ce qui est intéressant à propos d'Ézéchias et de Josias, ces deux rois dont il est dit que aucun n'a été comme eux avant et aucun n'a été comme eux après, ces deux rois, on peut dire que Dieu met à part de tous les autres rois, ben c'est qu'eux, ils les ont enlevés les hauts lieux. Et c'est dit clairement, pour l'un comme pour l'autre. Ézéchias, c'est dit en 2 rois 18, versets 4 à 6. Il ôta les hauts lieux, brisa les statues, coupa les achères, mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, puisque même le serpent d'airain avait été conservé, était devenu un objet d'adoration comme si c'était une idole. Donc, 18, versets 4 à 6. 2 rois 18, versets 4 à 6. Donc il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et après lui il n'y en eut point de semblable à lui parmi tous les rois de Juda, et il s'attacha à l'Éternel, et il ne se détourna point de lui, il garda ses commandements que l'Éternel avait commandés à Moïse. Et dans les commandements que l'Éternel avait commandés à Moïse, il y avait d'adorer l'Éternel à Jérusalem. Ça faisait partie des commandements aussi. Et non seulement le roi a fait ça, Ézéchias, mais le peuple a suivi. En fait, sous Ézéchias, il y a eu une grande Pâque qui a été célébrée. Et ça faisait très longtemps que le peuple n'en avait pas célébré. Et juste après la Pâque, ils ont une Pâque extraordinaire, où ils sont vraiment une Pâque de réveil. Et après la Pâque, c'est au verset 1er du chapitre, 2 Chroniques 31, verset 1er. Après cette Pâque où ils se sont régalés entre eux de retrouver la fête à l'Éternel, il est dit, lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui se trouvèrent là s'en allèrent par les villes de Juda, et brisèrent les statues, abattirent les achères, démolirent les hauts lieux et les autels, dans tout Juda et Benjamin, et en Éphraïm et en Manassé, jusqu'à ce qu'ils eussent tout détruit. C'est-à-dire que la conséquence de ce roi qui était retourné de tout son cœur à l'Éternel, c'est que tout le peuple a fait pareil, et ils ne sont pas restés juste dans leur territoire, ils ne sont pas contentés de supprimer les hauts lieux de Juda, ils sont allés dans le royaume du Nord. Éphraïm et Manassé, c'était le royaume du Nord, ils ont fait la même chose. À tel point que c'est devenu de notoriété publique dans les pays d'alentour, puisque ensuite, un peu plus loin, au chapitre 32 de 2 Chroniques, quand Sanchérib, le roi d'Assyrie, vient assiéger le royaume, c'est un des trucs qu'il dit à Ézéchias. C'est-à-dire qu'il savait très bien, même lui qui était un païen, il savait très bien ce qu'Ézéchias avait fait, et il dit de lui, n'est-ce pas cet Ézéchias qui a ôté les hauts lieux et les autels, etc., etc.
Verset combien ?
Ça, c'est 2 Chroniques 32, verset 12. Donc voilà, ce qui caractérisait Ézéchias par rapport aux autres bons rois, c'est que lui, il avait ôté les hauts lieux, et tout le peuple après lui de la même manière. Et puis on retrouve la même chose pour Josias, je ne vais pas vous le lire, je vous donne juste la référence si ça vous intéresse. C'est 2 Chroniques 34, versets 3 à 7. Et lui aussi, il est dit clairement qu'il a ôté les hauts lieux. Donc j'en reviens à ce que j'avais commencé à dire. L'idolâtrie, on sait un peu ce que ça représente. L'idolâtrie, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre cœur, ou tout ce qui peut faire qu'on ait un cœur partagé. En fait, pendant toutes les périodes, toutes ces périodes où il y avait des mauvais rois en Juda, il y avait quand même toujours des sacrifices qui étaient offerts à l'Éternel au temple. C'est-à-dire qu'en gros, le peuple, il faisait les deux. D'un côté, ils adoraient l'Éternel, et ça ne les empêchait pas chez eux d'avoir des idoles et d'avoir en même temps un culte pour les idoles. C'était une façon de... Voilà, de ménager tout le monde. Vous avez vraiment un cœur partagé. Donc ça on le sait, qu'il ne faut pas laisser des choses dans nos vies qui prennent la place de Dieu, ni non plus des choses avec lesquelles notre cœur est partagé, où on a un peu pour Dieu, mais aussi un petit peu pour ces choses-là. Et il y a une chose à laquelle on fait peut-être moins attention, c'est d'adorer Dieu, mais sous nos conditions et à notre manière, et pas forcément de la manière dont lui nous le demande. Et c'est un peu ce qu'ils faisaient, là, les Israélites, pendant ces réveils. Ils retournaient à l'Éternel, ils n'adoraient plus les idoles, mais ça les arrangeait mieux d'adorer Dieu en haut de la haute montagne où ils avaient l'habitude d'aller quand ils adoraient les idoles, plutôt que d'aller jusqu'à Jérusalem, le faire comme Dieu l'avait dit. Donc ils adoraient l'Éternel, mais à leur manière. Et en fait, moi ça me rappelle ce qu'on entend souvent dans la rue quand on évangélise, quand on croise des croyants, et ça arrive souvent, donc on leur demande s'ils ont une église, etc., et où on vous répond, ben moi je crois en Dieu, et puis il voit mon cœur, et il sait comment je vis, mais non, moi je pense pas que ma place c'est dans une église, et je pense que je peux faire plutôt ça, ou je pense que... Alors c'est vrai pour l'église, c'est vrai pour plein d'autres choses. Bon, il y a beaucoup de chrétiens qui se font leur christianisme en fonction de ce dont ils ont envie, mais sans plus tellement s'intéresser à comment Dieu leur a dit de le faire, comment Dieu leur a dit de vivre. Et pour moi, c'est ça, ne pas ôter les hauts lieux de notre vie. C'est-à-dire qu'on adore l'Éternel, il n'y a rien à dire, on est croyant, on est né de nouveau, on loue Dieu, mais dans certains domaines, on laisse les idées du monde entrer. Et on fait les choses à notre façon, ou à la façon du temps dans lequel on vit, au lieu de les faire à la façon dont Dieu dit dans sa parole qu'on doit les faire. Et alors, que je ne perde pas mon fil. Alors oui, pourquoi c'est important de faire les choses comme Dieu dit qu'il faut les faire? En tout cas, c'est important aux yeux de Dieu, et ça on le voit dans l'histoire d'Uza. Vous savez, c'était en 1 Chronique, chapitre 13, c'est versets 5 à 14. Et en fait, quand vous lisez le passage, je vous rappelle un petit peu, l'arche d'Israël avait été prise par les Philistins. En Chronique 13, versets 5 à 14. L'arche avait été prise par les Philistins, et puis elle avait été rendue, mais elle ne se trouvait pas à Jérusalem. Et donc David va chercher cette arche pour la ramener à sa place dans Jérusalem. Donc il fait quelque chose de bien, il va remettre l'arche à sa place. Ça, c'était quelque chose de très bien. Simplement, on connaît l'histoire, hein, il l'a fait ramener sur un chariot tiré par des bœufs, alors que l'Éternel avait dit clairement que l'arche, ça se portait à dos d'homme et que c'était que les Lévites qui avaient le droit de la porter. Et donc, alors que cette arche est en train de revenir sur le chariot, les bœufs bougent, l'arche glisse, elle manque de tomber du chariot, et donc un des hommes qui était là, croyant bien faire, rattrape l'arche, sans être un Lévite lui-même, et donc il tombe mort directement, jugé par Dieu. Et c'est intéressant, quand on lit le passage, de voir la réaction de David sur le moment. Donc, 1 Chronique 13 au verset 14. David, il n'a pas apprécié du tout ce que Dieu avait fait. Non, c'est pas verset 14, c'est un peu avant. Voilà, verset 11. David fut irrité, car l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Uza. Et il appela ce lieu-là du nom de Pérès-Uzza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, disant « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» Et donc du coup, il l'a détournée, il l'a envoyée chez Obed-Edom et il ne l'a pas fait revenir à Jérusalem. Donc on voit cette réaction de David. Dieu l'a arrêté parce qu'il est en train de faire les choses à sa manière et pas comme Dieu avait demandé. Et donc sa première réaction, c'est « Je ne suis pas content là, je suis irrité. Dieu, tu n'aurais pas dû faire ça. » Et puis maintenant, en plus, j'ai peur. Donc, je ne vais pas continuer à essayer de faire ta volonté. Et donc, ça dure un petit peu, ça ne dure pas longtemps, parce qu'au chapitre 15, on voit que David a appris la leçon. Et donc, au chapitre 15, alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a appris la leçon, c'est peut-être le dernier verset du chapitre 13 qui nous le donne. C'est que l'arche de Dieu est demeurée 3 mois avec la famille d'Obed-Edom. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Donc peut-être que David a vu ça aussi. Il s'est rendu compte que ce n'était pas l'arche qui portait malheur, entre parenthèses, entre guillemets. Mais que c'était juste parce qu'il ne s'était pas comporté comme il fallait vis-à-vis de l'arche. Et en tout cas, au chapitre 15, il retourne chercher l'arche pour de bon. Et là, il dit au verset 2, « Il ne convient pas que l'arche de Dieu soit portée par personne, excepté les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu. » Et donc cette fois-ci, il va la chercher avec des Lévites, à qui il a demandé de se sanctifier avant. En fait, il le fait dans les règles. Il fait exactement comme Dieu comme Dieu avait fait. Et il ramène, et même il dit au verset 13, verset 12, vous êtes les chefs des pères des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël, au lieu que je lui ai préparé. Car parce que vous ne l'avez pas fait la première fois, l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous, car nous ne l'avons pas recherché conformément à l'ordonnance. Et donc on voit dans ce récit, c'est un exemple où on voit que pour Dieu, c'est important qu'on fasse les choses à sa manière et pas à la nôtre. C'est pas la seule chose qui compte, c'est pas qu'on fasse sa volonté, c'est aussi comment on l'a fait. Et donc, chaque fois qu'on entend mais de toute façon, je marche avec Dieu, donc je le fais à ma façon. Ça, c'est pas la façon de marcher avec Dieu, c'est pas ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande à quelqu'un qui est d'un cœur parfait envers lui, c'est non seulement de marcher avec lui, mais de marcher avec lui comme lui l'a demandé, à sa manière. Et en fait, on peut être tenté de discuter les commandements de Dieu des fois. Alors, pas dans la finalité, parce qu'on veut tous, faire sa volonté, c'est notre désir. Mais après, dans le modus operandi, vous connaissez cette expression, c'est-à-dire la façon de faire la chose. Dans la façon de faire la chose, on se dit, bon, ce qui compte, c'est que je le fasse. Ce qui compte, c'est que je fasse quelque chose pour Dieu. La manière dont je le fais, c'est peut-être pas si important. Et on peut être tenté de discuter. Mais en fait, quand on fait ça, on oublie ce que Dieu dit en Ésaïe 55, versets 8 et 9. C'est que ses pensées sont élevées très haut au-dessus de nos pensées. Ses voix sont beaucoup plus élevées que nos voix. Et donc, on peut pas comprendre certaines choses. Et peut-être qu'il y a des fois où Dieu nous demande de faire les choses d'une certaine manière parce que c'est important, parce qu'il y a des conséquences. Et nous, parce qu'on ne voit pas les conséquences, on aurait tendance à le faire autrement. Et du coup, ça risque d'être grave. En fait, obéir à Dieu sans comprendre pourquoi il nous demande de faire quelque chose, c'est lui faire confiance. C'est juste de reconnaître, lui, il est Dieu. Moi, je suis qu'un homme, il y a plein de choses que je ne comprends pas, plein de choses que je ne vois pas. Donc, s'il me dit de faire cette chose de cette manière, c'est qu'il y a une raison. C'est tout. Et je lui fais confiance, et je sais qu'il m'aime, et je sais qu'il est sage. Il ne me le demanderait pas si ce n'était pas la meilleure chose à faire. Donc, je le fais comme ça, même si moi, avec mon raisonnement humain, je ne comprends pas. Et après, il y a plein de domaines où ça peut s'appliquer, ça. J'en ai juste sorti quelques-uns, mais on pourra en trouver plein d'autres, j'imagine. Vous pourrez peut-être en soulever certains. Je pensais notamment au problème de la souffrance, que ce soit la souffrance dans le monde ou la souffrance en particulier quand ça touche nos vies. En fait, on a deux façons de réagir possibles. La première, c'est un peu la réaction qu'a eu David quand Dieu a frappé Uza, d'être un peu en colère contre Dieu quelque part, d'avoir peur aussi, d'être effrayé de ce qui vient de se passer, et oui, de laisser un peu de jeu dans notre relation avec Dieu, parce qu'on lui en veut de ce qu'il a permis la souffrance dans notre vie ou dans le monde, et parce qu'on ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est la première réaction qu'on peut avoir. Et puis l'autre réaction qu'on peut avoir, c'est de se dire, Dieu est beaucoup plus grand que moi, et il m'aime, donc il ne permettra rien qui ne soit pas pour mon bien. Donc s'il permet cette souffrance, c'est qu'il a un but glorieux à la fin, que moi je ne vois pas. Et en tout cas, ce n'est pas au hasard. Et je choisis de lui faire confiance, même si pour le moment, ça n'a pas de sens pour moi. Il n'y a rien qui ait du sens. Et en fait, quand on fait ça, on glorifie Dieu. Parce qu'on montre une forme de douceur que les gens regardent et s'étonnent parce que c'est quelque chose de pas naturel. Et puis ça glorifie Dieu aussi quand on lui obéit sans comprendre. Parce que ça manifeste vraiment une confiance dans son caractère. Donc ça, c'est une des applications. Et encore là, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. C'est plus une réaction par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Mais après, c'est vrai aussi pour des choses beaucoup plus pratiques. Par exemple, quand on pense à des enseignements de Dieu qui sont clairs dans sa parole, mais qui sont beaucoup remis en cause aujourd'hui, dans le monde d'abord, où ils ne sont plus du tout respectés, mais même parfois dans le christianisme. Je pensais par exemple à l'exemple de la pureté. En fait, dans la parole de Dieu, c'est vraiment très clair. Personne ne peut le nier que ce que Dieu dit à propos de la pureté, c'est que les relations sexuelles, c'est pour le mariage, pour rien d'autre. Que tout ce qui est en dehors, ça s'appelle de l'adultère ou de la fornication. Et donc, c'est très très clair que la manière de Dieu pour les relations sexuelles, c'est de prendre le mariage. Mais en fait, on vit dans un monde où c'est plus vrai du tout. Donc ça, on a déjà cet autre son de cloche en permanence dans les oreilles. Et puis, on a aussi, on observe aussi, du coup, dans le christianisme, des chrétiens qui commencent un petit peu à changer de discours. Alors bien sûr, ils appellent toujours l'adultère l'adultère. C'est-à-dire pour eux, quelqu'un qui est marié et qui couche avec quelqu'un d'autre, c'est toujours un péché. Ça n'a pas changé dans leur discours. Mais tu les entends dire, par exemple, qu'en revanche, une fois qu'on est fiancé, on sait qu'on va se marier au bout. Voilà, c'est pareil. Quelle est la différence? Et on peut être tenté de raisonner comme ça, dans un exemple précis comme celui-là. On peut être tenté de se dire, après tout, voilà, qu'est-ce que ça change? Et c'est là pour moi que c'est important de ne pas laisser des hauts lieux dans notre vie. C'est-à-dire de dire, dans ce domaine-là comme dans tous les autres, je ne comprends pas pourquoi c'est si important. C'est vrai, avec un raisonnement humain, je ne comprends pas, parce que c'est la personne que j'ai choisie, et voilà, je ne vois pas d'un point de vue humain ce que ça change d'attendre le mariage. Mais Dieu dit que ça change quelque chose et que c'est important. Donc je choisis de faire confiance, et je choisis juste d'obéir. Et en fait, encore une fois, chaque fois qu'on fait ça, c'est un témoignage, parce que c'est vraiment pas la façon du monde d'obéir sans comprendre. En fait, c'est la façon d'obéir d'un petit enfant qui fait confiance à ses parents. C'est-à-dire que ses parents lui disent de faire quelque chose, il ne voit pas pourquoi c'est important, mais il le fait parce qu'il sait que si ses parents lui demandent, c'est qu'il faut, c'est qu'il y a une raison, et c'est que c'est pour son bien, donc il le fait. Et c'est, pour moi, c'est exactement comme ça qu'on doit obéir à Dieu, et c'est exactement comme ça qu'on ne garde pas de haut lieu dans notre vie. C'est-à-dire qu'on adore l'Éternel, et on adore l'Éternel de la manière dont il nous l'a demandé. Et la manière dont il nous l'a demandé, dans le domaine de la pureté, c'est d'attendre le mariage. Et donc voilà, même si on ne comprend pas comment ça marche, on le croit, simplement. Un autre domaine aussi auquel je pensais, où on ne comprend pas forcément, mais c'est un domaine aussi où il faut juste croire Dieu, c'est le principe de l'autorité qui revient à l'homme. Alors, dans l'Église, déjà, le fait que l'autorité dans l'Église, elle est pour les hommes, mais aussi simplement dans la vie en général, c'est-à-dire le principe général qu'on trouve dans la parole, que c'est l'homme qui a été placé pour être la tête, et que la femme doit lui être soumise, doit être soumise à son autorité, donc que ça soit dans le couple, dans la famille, dans l'Église, il y a ce principe qui revient tout le long. Et là aussi, on pourrait être tenté de raisonner avec notre intelligence naturelle, et de se dire, oui, mais en même temps, il y a des versets qui disent qu'il n'y a plus ni homme ni femme, donc on est tous égaux. On peut utiliser notre raisonnement humain pour dire des choses pareilles. Et du coup, se dire, ben, voilà, c'est pas forcément si important, et du coup, on peut nommer une femme pasteur, par exemple. Et en fait, là, encore une fois, quand on raisonne comme ça, pour moi, c'est on adore l'Éternel, mais dans les hauts lieux, pas au temple à Jérusalem. C'est-à-dire qu'on marche toujours avec Dieu, c'est pas parce qu'on fait des choses comme ça qu'on n'est plus des chrétiens fervents qui essayent de faire la volonté de Dieu, mais on fait les choses à notre manière, et on pense que notre manière de faire les choses est aussi bien que celle que Dieu a donnée. Et on oublie en fait en faisant ça que Dieu connaît des choses qu'on ne connaît pas, et que même si on ne comprend pas pourquoi l'homme a cette place par rapport à la femme, Dieu le dit et ça suffit. On n'a pas besoin que Dieu nous explique toutes les choses qu'il nous dit. D'abord, on ne pourrait pas les comprendre, parce qu'il est Dieu et que nous, on n'a pas encore la capacité de comprendre tout. Mais si lui nous dit que c'est comme ça que ça doit se faire, après, si nous, on a confiance qu'il nous aime et qu'il sait tout, on obéit simplement. Il n'y a plus de questions à se poser. Donc voilà, c'est les trois exemples auxquels j'ai pensé, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Si vous en avez, ça m'intéresse. Mais en tout cas, de tous ces cas pratiques où dans nos vies, on adore Dieu, mais pas au bon endroit. C'est-à-dire, on fait la volonté de Dieu, mais on la fait à notre façon. Et du coup, on se prive de ce que Dieu avait en réserve pour nous.